Radio Prague, les informations.
Bonjour, l'ONU veut que 3 cadres de l'armée tchèque rejoignent la mission de paix sur le plateau du Golan. Bohuslav Sobotka reconduit à la tête du Parti social-démocrate et tunnel Blanka, le remplacement des câbles endommagés, prendra plus de 8 mois. L'Organisation des Nations Unies a demandé à l'armée tchèque de dépêcher 3 cadres afin de rejoindre le commandement de la mission de paix FNNUOD sur le plateau du Golan, territoire situé dans la zone frontalière entre la Syrie et Israël. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi au quotidien Mladá Fronternes le chef d'état-major de l'armée tchèque, Petr Pavel. La République tchèque avait offert à l'ONU l'envoi de 10 soldats. C'est sur la base de cette proposition que les Nations Unies ont demandé 3 militaires qui ont été rapidement sélectionnés par l'armée tchèque. Le chef de l'État, Miloš Zeman, soutient depuis longtemps une participation tchèque à la mission de l'ONU sur le plateau du Golan, territoire syrien occupé par Israël depuis la guerre des Six Jours en 1967. C'est par les hymnes tchèques et européens qu'a débuté à Prague le congrès du Parti social-démocrate, principale formation de la coalition gouvernementale au pouvoir, auquel participaient 700 représentants du mouvement. Le Premier ministre Bohuslav Sobotka était reconduit à la tête du parti pour la 3e fois consécutive. Soutenu par toutes les fédérations régionales, Bohuslav Sobotka n'a été opposé à aucun autre candidat. Dans son discours, le chef du gouvernement a évoqué le risque de conflit d'intérêts qui entoure la personne d'Andrei Babiš, le ministre des Finances, président du mouvement ANA et entrepreneur milliardaire, propriétaire de plus importants groupes agroalimentaires du pays, ainsi que de différents médias. Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, qui dirige le parti d'orientation social-démocrate Smer, est également intervenu à la tribune pour saluer l'action de son homologue tchèque, notamment sur la question des sanctions à l'égard de la Russie. Par rapport à la moyenne internationale, les enseignants tchèques passent moins de temps dans les salles de cours. À l'inverse, le temps de travail qu'ils consacrent à la préparation des cours est, lui, plus élevé. C'est ce que révèle l'enquête Thalys, à laquelle ont participé 24 pays membres de l'OCDE et 10 autres États partenaires. Selon ces données, qui prennent en compte une heure de cours comme ayant 60 minutes, les enseignants de ces pays passent en moyenne 19,3 heures par semaine en cours. En République tchèque, ce nombre d'heures est de 17,8 par semaine contre par exemple 26,7 au Chili. En Norvège, il ne s'agit que de 15 heures de cours. D'un autre côté, la République tchèque est le pays où les enseignants consacrent seulement 5% du temps à assurer l'ordre en classe, soit environ 3 minutes de cours. A l'inverse, au Brésil ou en Malaisie, la moitié du corps des enseignants consacre près de 15% du cours à gérer la discipline des élèves. La commande ainsi que le remplacement des câbles endommagés par l'humidité du tunnel Blanka prendront plus de 8 mois. C'est ce qui découle du planning qui a été élaboré par la société ČKD Praha 10, fournisseur devant prendre en charge cette opération. Il n'est toutefois pas encore certain quand vont débuter les travaux de remplacement et qui va les financer. La municipalité de la ville de Prague, qui est à l'heure actuelle en conflit avec ses différents fournisseurs à propos de ce sujet, envisage même de déposer une demande d'arbitrage. En raison de l'endommagement de ces câbles, la ville de Prague a récemment de nouveau repoussé la date d'ouverture du tunnel, dont le prix exorbitant s'élève désormais à 37 milliards de couronnes, soit près de 1,34 milliard d'euros. Selon des estimations, le coût de remplacement des câbles en question devrait s'élever à 1 milliard de couronnes supplémentaires, soit 37 millions d'euros. La future statue commémorant l'ancien président et dramaturge tchèque Václav Havel se trouve à l'heure actuelle dans une fonderie. Œuvre de Barbora Daušová, la statue devrait être placée sur une colline du parc de Petrín, à quelques mètres du château de Prague. Dans les semaines à venir, les initiateurs de ce projet, à savoir l'association pour la construction de la statue Václav Havel, s'apprête à demander aux autorités concernées les permis nécessaires relatifs à l'emplacement de cette statue. Afin de mener à bien cette initiative, une collecte d'argent public avait été mise en place à la fin de l'année 2012. Néanmoins, si la collecte prend symboliquement fin le 17 novembre prochain, l'association qui n'a pas encore récolté suffisamment de fonds a l'intention de payer la somme manquante de sa propre poche. La statue en question représente Václav Havel tenant sur son épaule une veste sur laquelle figurent des extraits de sa pièce théâtrale « Otrázení, partir en français ». Et passons au sport. Andrzej Morawiecki a empoché la médaille de bronze sur l'épreuve du 20 km individuel au championnat du monde de biathlon en Finlande. Vice-champion olympique à Sochi, le biathlète tchèque âgé de 30 ans a dû batailler ferme pour revenir à hauteur de Simon Fourcade et terminer à cette troisième place. C'est le frère de ce dernier, le double champion olympique Martin Fourcade, qui a remporté l'épreuve devant le Norvégien Emil Svensson. Sur l'épreuve du 20 km individuel, c'est la première fois qu'Andrzej Morawiecki se monte sur le podium. Et nous terminons par un mot de météo. La pluie s'abat sur la totalité du territoire tchèque ce samedi, jour de fête de toutes les routes et de toutes les Matilda. Les températures oscillent entre 4 et 7 degrés pour les maximales. Mais attendez-vous à un ciel plus généreux en éclaircie ce dimanche, jour de fête des Eda. En hausse, les températures maximales grimperont alors jusqu'à 11 degrés Celsius. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous présentez, Danessa Tomanova. Restez en notre compagnie pour la suite de notre programme avec Pierre Maignan.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à tous les amis et bienvenue à l'écoute de la suite de cette émission de Radio Prague consacrée, comme vous le savez, à l'actualité tchèque. Mais merci tout d'abord à Denisa Tomanova pour son magnifique bulletin d'information. Au programme de ce vendredi, nous partirons sur la trace des Bunong, un peuple du Cambodge pour qui les éléphants occupent une place toute particulière. Un film projeté au festival Jedensfjet se propose de faire découvrir cette culture aujourd'hui menacée par la déforestation. Dans la deuxième partie de l'émission, vous retrouverez la traditionnelle revue de presse d'Alena Gebertova qui parle notamment du rapport des Tchèques aux mathématiques. Avant de suivre ce programme alléchant, parlons commerce équitable avec Ashbieta Ticha. Une école de la ville de Kroměříž a obtenu récemment le label Fairtrade et devient ainsi le 12e établissement scolaire en République tchèque à soutenir le commerce équitable. Le projet, qui existe déjà dans de nombreux pays du monde entier, a pour objectif de réveiller la responsabilité des consommateurs par rapport aux conditions de production des biens qu'ils achètent. C'est un sujet signé Alžběta Ticha avec la collaboration de Lucie Draselova.
Le 24 février, le label École Fairtrade était décerné au directeur du lycée professionnel hôtelier et des services de Kroměříž par l'organisation NAZEMU sur terre en français, une organisation non gouvernementale s'intéressant aux conditions de vie et de travail dans le monde. Responsable du projet Fairtrade, Stanislav Kominek présente cette campagne de sensibilisation des établissements scolaires au commerce équitable.
L'école labellisée Fairtrade est un projet qui fait partie de la campagne des villes du commerce équitable fondée en République tchèque en 2011. Nous avons défini 5 critères que l'école doit remplir pour valider son soutien au commerce équitable. Ces critères concernent d'une part l'éducation des élèves, des étudiants, des professeurs et des parents, mais aussi celle du grand public et d'autre part l'intégration de ces thèmes dans l'enseignement et la consommation de produits certifiés équitables.
Actuellement, de plus en plus d'écoles en République tchèque s'intéressent à cette initiative et entrent dans le long processus qui devrait leur permettre d'obtenir la certification tant désirée. Stanislav Kominek précise.
La durée du processus diffère pour chaque aspirant au label de l'école soutenant le commerce équitable. Généralement, il s'écoule environ un an avant que l'école ne réussisse à créer un groupe de coordination de la campagne Fairtrade et à réaliser un programme des activités à mettre en place. La campagne regroupe pour l'instant une vingtaine d'écoles, dont 12 sont déjà titulaires de ce label Fairtrade.
Le lycée professionnel hôtelier et des services de Kroměříž a obtenu ce titre après quelque 18 mois de préparation. Initiatrice de la campagne et professeure des sciences économiques, Věra Kadlecová, affirme que malgré quelques réactions négatives, le projet a été bien accueilli.
Kromě běžné výuky jsem chtěla něco udělat navíc. Mis à part le niveau d'éducation standard, j'ai voulu faire quelque chose en plus et motiver les étudiants à s'intéresser aux problèmes des gens dans le monde, par exemple à leurs conditions de travail, notamment dans les pays en voie de développement, et ainsi encourager leur conscience sociale. Les étudiants sont devenus enthousiastes pour ce projet, même si certains ont peu à peu perdu leur verve, et au contraire d'autres ont vu leur intérêt s'accroître. Il y avait donc quelques 25 étudiants qui ont participé activement, mais la plus grande productivité de la part des étudiants s'est manifestée lors de la campagne publique. Ils ont vu l'intérêt des gens pour le commerce équitable et ont été rassurés de constater que leurs efforts en valaient la peine.
Selon Stanislav Kominek, l'initiative de l'école provoque souvent également l'intérêt de la part de villes où elle se trouve. Ainsi, Viera Kadletsova affirme que la ville de Kroměříž va elle aussi devenir bientôt titulaire du label.
Le 22 avril, la ville de Kroměříž obtiendra elle aussi le label de ville Fairtrade et nous allons y participer également. Nous serons présents sur un stand d'information pour enseigner le public et nous allons préparer des gâteaux à partir de produits certifiés équitables.
Même s'il reste minoritaire en République tchèque, le commerce équitable suscite de plus en plus l'intérêt des consommateurs. Stanislav Kominek finit en indiquant que les résultats du pays sont plutôt positifs, ce que confirme le nombre croissant des écoles, des villes et des églises qui rejoignent la campagne. En comparaison avec le reste de l'Europe centrale et orientale, avoir 8 villes titulaires du label du commerce équitable en République tchèque peut être considéré comme une réussite.
Les Bunong sont un peuple établi dans l'est du Cambodge, dont les éléphants, qu'ils ont appris à capturer et à domestiquer, occupent une grande place dans la culture. Présenté à Prague dans le cadre de la 17e édition du festival documentaire Jedensfjet, le film Les derniers hommes éléphants propose de partir à la rencontre de ces gens dont le mode de vie est aujourd'hui menacé par la déforestation et l'apparition de nouveaux enjeux tels que le tourisme. De passage dans la capitale tchèque, Arnaud Bouquet, l'un des co-réalisateurs de ce long métrage, a répondu à nos questions.
Depuis quelques années maintenant, effectivement, le gouvernement cambodgien vend des concessions de forêt de façon plus ou moins légale, plus ou moins détournée, à des compagnies étrangères, chinoises, coréennes, mais aussi européennes. En particulier, là, chez les Bunong, là où on filmait, c'est une compagnie luxembourgeoise qui s'appelle la Socfin, qui est spécialisée dans la plantation d'EVA. Les EVA sont des arbres qui permettent de fabriquer du caoutchouc. Une fois que l'EVA est planté, tout ce qui pousse autour meurt et toute vie animale est menaçante pour les arbres à caoutchouc, en particulier les éléphants qui n'ont pas de problème à arracher un arbre en quelques secondes. Donc on chasse aussi les animaux de leur habitat naturel.
Alors c'est pas du tout le sujet du film, on n'en parle pas dans le film de cette société-là, mais est-ce que vous avez essayé de les contacter ou est-ce que...
Oui, on a même été filmé sur donc des morceaux de forêt qui aujourd'hui leur appartiennent, mais qui sont revendiqués par les Bunong comme étant des terres ancestrales. Il y a même eu certains drames à cet endroit-là, puisque les Bunong enterrent leurs morts dans les forêts, au pied des arbres. Et ces terres où les morts sont enterrés ont été dévastées par les compagnies sans aucun remords. Donc on les a contactés, ça a toujours été fin de non-recevoir, ils ne veulent pas être filmés, ils ne veulent pas donner d'entrevue, etc. On a laissé tomber, mais de toute façon, comme tu le dis, ce n'était pas notre propos. C'est-à-dire que nous, on n'a pas fait avec les derniers hommes éléphants, on n'a pas fait un film d'activiste, on n'a pas fait un film à charge contre les compagnies. On a voulu s'approcher au plus près des Bunong, qui finalement sont des gens très très méconnus. On ne sait pas qu'il y a ces autochtones-là avec cette culture-là au Cambodge.
Vous avez sélectionné, vous avez fait 3 portraits de ces Bunong. Comment vous avez sélectionné ces 3 personnes ?
Alors, tout d'abord, bien entendu, il y a le personnage clé de ce documentaire-là qui s'appelle Mare, qui est un vieil homme aujourd'hui décédé. Il est décédé au mois de février dernier, qui était âgé entre 75 et 80 ans. Les gens ne connaissent pas nécessairement leur âge chez les Bunung. Lui, ça allait de soi parce que c'est le dernier homme éléphant, c'est-à-dire qu'il a la capacité de communiquer avec l'esprit des éléphants. C'était le dernier à maîtriser ce savoir, donc ça allait de soi pour nous de filmer Mré. Les Bunung sont des animistes, ils croient aux esprits de la forêt, aux esprits des animaux. Le deuxième, on s'est dit, comme on a un vieil homme, on va aller vers la nouvelle génération. Donc on a été rencontré Doul, un jeune garçon de 16 ans, qui lui, comme pas mal de gens de la nouvelle génération chez les Bunung, utilise les éléphants pour gagner de l'argent avec les touristes. C'est un phénomène nouveau. Pendant longtemps, ils ont donc utilisé leurs éléphants pour les tâches agricoles et forestières. Mais là, depuis quelques années, ils font énormément d'argent, soudainement, avec les touristes qui veulent faire des trekking à dos d'éléphants. De la même façon, on n'a pas voulu faire un documentaire à charge contre le tourisme. On ne juge pas cette activité. On a voulu montrer ce que ça a impliqué pour l'éléphant et pour les gens. Et la troisième personne, c'est une activiste du nom de Mané, une fille qui est sortie de la communauté, qui a étudié à Phnom Penh, qui a voyagé un peu partout dans le monde et qui milite pour les droits des Bunung, mais qui a aussi un drame personnel très très touchant, c'est-à-dire que l'éléphant qu'elle possédait enfant avec sa famille a été vendu. Et aujourd'hui, la famille a des regrets et donc elle part en quête de l'éléphant à travers le pays. Elle essaie de retrouver son éléphant.
Est-ce que c'est facile de filmer des éléphants ?
Alors, l'éléphant est un animal charmant, mais on est loin de Dumbo l'éléphant. C'est un animal extrêmement dangereux. Et les Bunung ont été très protecteurs dans les premiers tournages parce qu'ils me voyaient un peu... de façon naïve m'approcher comme ça des éléphants pour les filmer et il a fallu effectivement que je prenne un ou deux coups de tête d'éléphant pour comprendre que même domestiqué depuis 50 ou 60 ans l'éléphant demeure un animal extrêmement puissant, extrêmement dangereux, extrêmement imprévisible.
Le rapport des enfants tchèques à l'égard des mathématiques, plus négatif que jamais, le rappelle par Madeleine Albright, ex-chef de la diplomatie américaine, du discours prononcé par Václav Havel aux États-Unis après sa première investiture présidentielle, la vérité sur les bombardements de plusieurs villes tchèques par les avions soviétiques vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, et enfin les traces tchèques dans l'œuvre et le parcours du grand écrivain américain Philip Roth. Tels sont les sujets qu'Alena Gebertova a retenu pour sa revue de presse hebdomadaire.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Les enfants tchèques sont faibles en mathématiques et tout indique qu'ils ont, à l'égard de cette matière, un rapport plus négatif que leurs confrères européens. C'est ce que révèlent les derniers résultats des tests réalisés à l'échelle internationale par les sociétés TIMSS et PISA. Dans les pages du quotidien Lidové Noviny, Radka Kovačková remarque que dans les années 1990, les aptitudes en mathématiques des enfants tchèques étaient source de fierté vis-à-vis du système de l'enseignement national, tandis que maintenant leur niveau très bas correspond à celui des pays en développement, elle précise.
De l'avis des experts en la matière, c'est justement l'aversion à l'égard des mathématiques qui est la principale cause du fiasco dont nous sommes à l'heure actuelle les témoins et qui va s'accroissant avec les années dans les établissements scolaires. Si les mathématiques sont chez les écoliers assez populaires durant les 4 ou 5 premières années de leur scolarisation, elles ne le sont presque plus à la fin du cycle primaire. Les raisons de ce déclin donnent lieu à toutes sortes de spéculations.
Les tests ont également montré que ce sont les enfants issus de familles complètes, socio-économiquement favorisées et dotées de diplômes universitaires qui obtiennent des résultats en mathématiques meilleurs que les autres catégories d'enfants. Les garçons réussissent également dans cette discipline mieux que les filles. Il s'agit là, selon certains, d'une preuve du fait que le système de l'éducation nationale ne garantit pas des chances égales de succès. En conclusion, Radka Kvatchkova écrit.
Des méthodes alternatives d'enseignement s'appuyant sur une approche active des élèves sont désormais envisagées comme une des voies permettant de trouver une issue à cette situation peu satisfaisante. Certains insistent pour leur part sur l'introduction obligatoire des preuves de mathématiques au baccalauréat. Cette initiative est soutenue aussi par l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Marcel Hladek, qui veut la mettre en pratique à partir de l'an 2019.
Il y a quelques jours, 25 ans se sont écoulés depuis le premier voyage officiel de Václav Havel, premier président tchécoslovaque investi après la chute du régime communiste aux États-Unis. En rappel de ce voyage devenu depuis légendaire, un des récents numéros du quotidien Economic Hospodarské Noviny a publié une interview avec Madeleine Albright pour savoir s'il s'agissait effectivement d'un événement couronné de succès, comme on aime à le présenter aujourd'hui. À cet égard, l'ex-chef de la diplomatie américaine et ami proche de Havel a tenu à souligner.
Le succès a été plus grand encore qu'on ne le pensait à l'époque. Les politiciens américains connaissaient Havel grâce à ses activités de dissident et à son rôle lors de la révolution de velours. Ils étaient alors curieux de le rencontrer en personne en tant que représentant de ce qui se passait en Europe après la chute du mur de Berlin. Havel est devenu le visage de l'espoir, survenu après la fin de la guerre froide. En plus, sur le plan verbal, il savait parfaitement l'exprimer, ce dont il a fait preuve dans son intervention prononcée devant le Congrès. Son voyage à Washington avait trois dimensions. Il s'est présenté lui-même, ainsi que la nouvelle Tchécoslovaquie, exprimant en même temps l'esprit de l'époque après la fin de la guerre froide.
En novembre dernier, lors de l'inauguration devant le bâtiment du Congrès d'un buste dédié à Václav Havel, Madeleine Albright a déclaré que ce dernier n'était pas en Tchéquie apprécié à sa juste valeur. Interrogée par le journal si elle se sentait déçue par l'évolution de la situation depuis le départ de Havel du château, siège de la présidence, elle a répondu
« Je n'étais pas à Prague depuis déjà un certain temps, mais je suis déçue. » Havel était une grande figure de l'histoire tchèque et slovaque et également une grande figure de l'histoire du XXe siècle. Son successeur direct ne l'a pas respecté et je pense que ce n'est que maintenant que beaucoup de Tchèques réalisent à quel point Václav Havel était un personnage marquant et exceptionnel.
Dans un texte accompagné de photos de l'époque, publié dans le quotidien Mladá Frontanes, Pavel Švec se penche sur un événement qui s'est déroulé il y a 70 ans. Des raids aériens de l'aviation soviétique ont alors lourdement touché plusieurs villes tchèques, faisant au total près de 1300 morts. Pendant très longtemps, la propagande communiste a tout fait pour présenter ces bombardements de la fin de la Deuxième Guerre mondiale comme étant l'œuvre des Allemands, le journal précise.
Ostrava, Brno, Děčín, Mělník, Mladá Boleslav, Znojmo. Telles sont les villes tchèques et moraves parmi des dizaines d'autres qui ont été atteintes par des raids de bombardiers soviétiques qui avaient pour cible les troupes allemandes en fuite se déplaçant vers la ligne de démarcation. Certaines de ces villes, comme Ostrava, important centre industriel et minier, ou Znojmo, constitué un important nœud ferroviaire, ont également joué pour les occupants allemands un important rôle stratégique.
Comme le souligne l'auteur de l'article, pendant de longues années et récemment encore, les bombes qui ont en partie endommagé plusieurs villes tchèques ont été officiellement attribuées aux Allemands. Selon les témoins, encore aujourd'hui, il s'agit d'une chose assez délicate car l'auréole des libérateurs a été très longtemps intouchable. Enfin, la version initiale a été définitivement déjouée par les documents révélés par les archives russes et confirmant que ces bombardements étaient à mettre sur le compte de l'aviation soviétique.
Il n'arrive pas très souvent de voir un écrivain de notoriété mondiale faire preuve d'une affinité hors standard envers la Tchéquie. Cela semble pourtant être le cas de Philip Ross, l'auteur américain qui dans les années 1970 a visité à plusieurs reprises Prague et qui s'était lié d'amitié avec des dissidents et des émigrés tchèques.
C'est ce que constate dans le supplément Salon du quotidien Pravo Stepan Kučera qui a demandé à l'occasion de la parution d'une nouvelle version tchèque du roman L'orgie de Prague plus de précisions à ce sujet à Christopher Coy, bohémiste américain, qui a notamment dit
« Ross se rendait à Prague tous les printemps de 1971 à 1976, non seulement en raison de son admiration pour Franz Kafka. Il s'intéressait également aux dissidents tchèques et à ce qu'ils vivaient après l'an 1968, leur sort lui paraissant souvent tout à fait kafkaïen. En plus, il aimait la liberté qui à l'époque existait ici dans le domaine des relations sexuelles et érotiques, tellement différente du climat puritain dans son propre pays. »
Dans l'interview pour le supplément Salon, il est également question de ce que Philip Roth a fait pour le succès international de certains auteurs tchèques, nous citons.
La première chose que Roth ait faite aux États-Unis pour la littérature tchèque, c'est qu'il a écrit une préface de l'édition américaine de « Risibles amours » de Milan Kundera. En même temps, il a rédigé des essais sur des auteurs tchèques qu'il a aussi souvent mentionnés en s'exprimant pour différents journaux. Et c'est encore lui qui a ressuscité le renom international de Jiří Vajle, grâce à quoi l'œuvre de cet auteur tchèque, Vivre avec une étoile, est devenue pendant un certain temps un des romans étrangers les plus vendus sur le marché américain.
Des motifs tchèques apparaissent aussi dans plusieurs œuvres de Philip Roth, dont en premier lieu l'Orgie de Prague, déjà citée. Le journal Pravo indique dans ce contexte qu'une adaptation cinématographique de cette œuvre, dont l'histoire se déroule pendant les années de la dure normalisation communiste, est actuellement en préparation par la cinéaste tchèque Irena Pavlasková.
Voilà, c'est avec la revue de presse d'Alena Gebertova que s'achève notre émission. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Ménian. Mais surtout, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt. Bon week-end. Ahoy.